Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ah, le cinéma, heureusement qu'il est là, même si les salles sont fermées. Heureusement que le 7e art peut nous faire voyager. Le voyage, c'est peut-être le fil conducteur de nos trois films de ce matin. Voyage au pays des espions avec le film Le Grand Blond à la chaussure noire. Des espions qui finissent par s'entretuer parce qu'un voyageur, justement, aux chaussures bariolées les rend chèvres. Voyage à travers la planète avec le film Home, un survol de notre Terre, de ses splendeurs stupéfiantes et de la destruction en cours. Voyage intérieur avec le film Le Journal d'un curé de campagne, voyage dans la misère humaine, de laquelle seuls les cœurs purs arrivent à faire jaillir la lumière. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Fidèle au poste, il vous accompagne en ce temps de confinement et on les en remercie. Paul Dima, toujours intervenant cinéma pour les Coteaux Païs et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bon, j'ai fait un peu de standard cette semaine à l'occasion du Radiodon et il y a une personne qui a appelé, je pense que c'est pas la seule à avoir dit ça. Et je lui ai demandé quelles sont vos émissions préférées. Elle m'a dit, c'est quoi déjà là, l'émission du mercredi soir? Vous savez, le monsieur qui a la grosse voix, là, cinéma. J'adore cette émission. Voilà, donc si vous voulez que Louis-Marie continue à faire son émission cinéma, il lui faut au moins un micro. Et en plus, il est difficile quand même, surtout en matière de casque. Hein. Il lui faut un micro à 350€ et un casque à 140. Et avec sa grosse voix, il les casse de temps en temps. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Les trois films à l'affiche de cette émission qu'on va pouvoir voir avec intérêt, voire délectation depuis chez soi, puisqu'on peut les trouver en VOD, Le Grand Blond à la chaussure noire, Yves Robert. Home, donc film documentaire de Yann Arthus Bertrand, et Le Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson. Le premier, c'est donc notre catégorie, je crois que c'est Rions ensemble, ou alors De quoi rire. Bref, on essaie de faire en sorte de mettre un peu de légèreté dans ce moment pénible. C'est un film donc, qui est sorti en 1972. On va tout de suite écouter la bande-annonce.
Bientôt, le grand blond avec une chaussure noire. De l'espionnage.
Pourquoi une chaussure noire ?
Un film comique.
Oui, mais pourquoi une chaussure noire ?
Un film symphonique.
Et pourquoi une chaussure ? C'est...
Un film qui frappe.
Et la chaussure noire ?
Un film qui fait boum.
Non, vraiment, il n'y a pas de chaussure noire dans tout ça.
Voilà pour la bande-annonce, parce que là, en l'occurrence, sans le visuel, c'est plus compliqué. Alors, l'histoire. François Perrin, sacré personnage que ce François Perrin, arrive à Orly. Et au pied, il a une chaussure jaune et l'autre noire, une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, ça tombe bien, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque, puisque cet homme aux chaussures bariolées est violoniste, il le choisit pour jouer à ses dépens le rôle d'un redoutable espion international. C'est donc une histoire d'espions qui veulent régler leur compte et qui prennent... Comment ils appellent ça dans le film déjà ? Ils prennent un... Au hasard. Bref, ils en prennent un au hasard.
Un dindon.
Un dindon.
Oui, c'est ça.
Voilà. Un piège à con.
Un piège à con.
Oui, c'est donc le dindon, en l'occurrence, c'est donc Pierre Richard qui joue François Perrin. Voilà, film. Enfin, ce qui nous plonge aussi dans une autre France, hein, quand même. 1972, là, on voyage. Hein, c'est pas l'immédiate après-guerre. L'histoire, qu'est-ce que vous rajouteriez, Louis-Marie ?
Oh, ben, vous avez tout dit. C'est. C'est l'histoire de, c'est une rivalité entre deux services d'espionnage et de contre-espionnage français. Hein, les deux sont français et il y en a un qui veut prendre la place de l'autre, un chef qui veut prendre la place de l'autre chef, augmenter son pouvoir, et l'autre chef lui tend un piège, donc avec ce fameux piège à con, en lui faisant croire que cet homme-là est un redoutable espion international. Alors ça permet... On a droit à quelques dialogues assez savoureux.
Il est redoutable, mais...
Il est redoutable. Il est redoutable parce qu'il est tellement maladroit que ce chef-là, incarné par Bernard Blier, le colonel Milan, finit par croire qu'il fait tellement de bêtises qu'il est vraiment un très grand espion.
Oui. On va écouter un autre extrait qui va nous aider à nous mettre davantage dans l'ambiance. En l'occurrence, donc, c'est Toulouse, qui est le grand chef donc, de ce service secret, qui est joué par Jean Rochefort. Et il a un de ses sbires qu'il prend à part. Ils vont sur la terrasse d'un grand immeuble parisien qui donne sur la Tour Eiffel. Et l'intrigue commence à se nouer.
Il a piégé votre appartement, en plus. Une voiture bourrée de drogue, des micros dans les statues. Il recule devant rien, Milan.
Le coup de la voiture, c'est sûrement lui, mais je ne peux pas le prouver. J'ai découvert les micros tout à fait par hasard. C'est du travail bien fait.
Il se donne du mal, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je n'aime pas les arrivistes, Perrache. Dans notre métier, ils ne vont jamais bien loin.
Faudrait lui rappeler que sa mission n'est pas de chercher par tous les moyens à vous piquer la direction de votre service. Pourquoi les micros ?
Milan m'a fait un sale coup, il s'attend à un retour de bâton. Il est assez réjouissant de l'imaginer tremblant de trouille devant sa table d'écoute. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Milan mérite une leçon. Il me déplaît d'avoir un adjoint qui confond contre-espionnage et grenouillage. Un pâté de canard comme je n'en avais jamais mangé. Maman en a repris 3 fois. Vraiment, elle n'a pas été raisonnable. Je lui ai dit, maman, vous allez vous rendre malade. Mais je ne vous ai pas fait venir, mon petit Perrache, pour vous raconter mes vacances. Un homme doit arriver demain matin à Orly à 9h30.
Oui, monsieur.
Voilà, donc le colonel Toulouse commence à lui donner une piste et une fausse piste en l'occurrence. Alors il faut dire qu'il y a une brochette d'acteurs pour ceux qui ont un certain âge parmi nos auditeurs, qui est absolument stupéfiante, Louis-Marie Soler.
Ah oui. À commencer par Pierre Richard, qui n'était pas encore très aussi connu qu'il est devenu par la suite. On l'avait vu dans Le Distrait, hein, sa première réalisation. Et c'est ce qui a séduit Yves Robert, d'ailleurs, pour lui proposer le rôle. Et puis, à leur côté, on a entendu Jean Rochefort à l'instant, qui parlait avec Paul Le Person. On connaissait beaucoup son visage, moins son nom. Sa voix aussi, on la reconnaît. Et puis, il y a, donc, je le disais, Rochefort, Blier, Bernard Blier, Mireille Darc, Jean Carmé. Et puis, quelques seconds rôles plutôt savoureux, dont Robert Castel, qui était tantôt pied noir, tantôt ne l'était pas. Enfin, c'était qui joue l'espion, là aussi.
Alors, je regrette un peu parce que les extraits qu'on trouve sur Internet, c'est pas, on va dire, les dialogues les plus truculents, quoique celui-là était déjà pas mal. Et puis, c'est quand même un comique de situation aussi. Oui. Donc, du coup, c'est difficile à rendre à l'antenne. Mais les dialogues n'y sont pas pour rien, quand même, hein, Paul Dimain.
Ah oui. D'ailleurs, le
c'est du cinéma à texte, comme on dit.
Le duo Yves Robert comme réalisateur, et puis Francis Weber contribue grandement à la qualité drôle et comique du film, parce que François Weber, scénariste très, très rigoureux, très efficace, qui a une science des dialogues consommés, fait qu'il y a une mécanique tout à fait bien serrée, bien articulée, et puis en même temps, le personnage de celui qui est censé être un espion de haut vol est tellement fantasque et maladroit que ça excite les interprétations les plus fantasques pour faire percevoir cet homme comme un espion vraiment incompréhensible mais diabolique, c'est-à-dire incompréhensible tellement...
Un espion génial.
Génial. Alors qu'il ne fait qu'accumuler des maladresses qui laissent le service qui voulait prendre la place du chef à la place du chef, dans une interprétation dont il ne comprend rien du tout. Il dit c'est bien la preuve qu'il est quand même terriblement puissant.
Alors, il y a une intrigue, il y a des intrigues amoureuses derrière, hein, ça a un petit côté vaudeville, puisque ce François Perrin a un bon copain, Maurice, avec qui ils vont faire du vélo, mais ce François Perrin couche avec sa femme, on peut dire ça, des choses comme ça.
Avec la femme de Maurice.
Voilà, avec la femme de Maurice, et puis il se trouve que, on va dire, une membre du service de contre-espionnage commence à lui faire du charme pour l'attirer dans les filets. Bref, c'est un homme qui ne sait plus où donner de la tête, jusqu'à rendre chèvre son ami Maurice, qui devient presque fou. On va écouter un deuxième extrait.
Oh non, 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 Maurice, excuse-moi, mais je ne peux pas te voir, j'ai un rendez-vous. Hein.
Il y a trois cadavres chez toi.
Quoi ?
Il y a trois cadavres chez toi. Tu es venu pour te tuer, il y a trois cadavres chez toi.
Qu'est-ce qui t'arrive encore ?
Viens voir.
Maurice, pourquoi voulais-tu me tuer ?
Salaud ! Vous êtes bien foutu de ma gueule tous les deux.
J'ai surpris pour l'aide au téléphone. Fonce-t'en !
Oh, Dieu, fonce-t'en !
Mais c'est...
Allez, entre. Et alors ? Je comprends pas. Eh, viens t'asseoir, va. Il y avait trois cadavres dans cette pièce, je te jure, Françoise.
Mais oui.
J'ai entendu Paulette au téléphone tout à l'heure. Ça, j'en suis sûr.
Mais oui, et tu l'as entendu faire l'amour dans une camionnette de fleuriste hier.
Oui.
Et aujourd'hui, tu as vu trois cadavres chez moi.
C'est pas bon signe.
Je suis pas médecin, moi, tu sais. Va boire un verre d'eau.
Un verre d'eau ?
Oui, ça va faire du bien.
Ce pauvre Maurice, c'est pas un personnage inutile dans le film. Hein. Je sais pas dans un scénario à quoi il correspond, mais il serait pas là, il manquerait quelque chose. J'ai l'impression que c'est un peu nous, le dindon de la farce, qu'on a envie d'être, pas d'être, etc. C'est...
Lui, il n'est pas dans le piège à con, mais il tombe dans tout.
En tout cas, le pauvre Maurice, il finit pas très bien. Alors, Louis-Marie, peut-être quelques mots sur ce réalisateur, Yves Robert.
Oh, Yves Robert, c'est un maître, on peut dire. On peut le dire ça comme ça, de la comédie à la française. C'est à lui qu'on doit le fameux film La guerre des boutons, au début des années 60. Inimitable, même si on a fait deux remakes et qui en sont sortis en même temps, mm-hmm. et qui étaient... largement en dessous de l'original.
De l'original, oui.
Parce qu'il n'y avait pas Petit Gibus, c'est pas le Petit Gibus du film, pas celui qui, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Bon, Yves Robert, c'est ça. Yves Robert, c'est le film de copain. C'est le spécialiste aussi du film de copain. Rappelez-vous, Un éléphant, ça trompe énormément, et Nous irons tous au paradis, l'histoire de quatre potes incarnés par Brasseur, Rochefort, Lannou et Bedos.
J'ai lu aussi que c'est lui qui avait adapté pas mal de littérature de Marcel Pagnol.
Oui, il a fait La gloire de mon père et Le château de ma mère, qui ont rencontré un beau succès, qui sont passés il y a pas très peu de temps d'ailleurs à la télé. Non, il savait raconter des histoires. Il avait un côté, il aimait prendre son temps, il aimait laisser aller les choses, la caméra, laisser venir les acteurs. Et comme le disait Paul au début de notre commentaire sur ce film, le fait qu'il soit associé avec Weber a fait que la balance était équilibrée entre le rigoureux métronome qui était Weber et celui qui était plus coulant dans la mise en scène et avec les acteurs, ce qui donne un film comme celui-là. Il faut bien avouer qu'au départ, on se demande si on est vraiment devant une comédie, parce que la première chose, et est-ce qu'on peut qualifier ça de gag, c'est quand le Perrache, envoyé par son chef, doit choisir le piège à con et il l'embrasse. Voilà, il l'embrasse.
C'est un film qui a connu aussi un certain succès hein, quand il est sorti.
Ah oui,
qu'il
très,
a été
succès,
très bon
au
box-office. Ça avait lancé la carrière, ou presque, de certains acteurs. Enfin, ça avait aidé à ce qu'ils deviennent des têtes d'affiche. Et puis, vous parlez du réalisateur au passé, parce que donc il est décédé à 81 ans en 2002. Paul, pourquoi est-ce que c'est une très bonne comédie, alors ?
Alors, ça s'inscrit dans une lignée de films. Il vient 12 ans après Les Tontons Flingueurs. Et qui était aussi un film d'espionnage pour rire, quoi, où il y avait des espions qui tiraient dans tous les sens.
Avec des gueules aussi. C'est...
Oui.
Avec.
Il y a des gueules aussi dans ce film, on ne peut pas dire le contraire.
Oui, bien sûr.
Billet, c'est...
Et donc, on sait que c'est une guerre pour rire. Il y a des cadavres.
Mais on meurt vraiment.
Ah oui, oui. Mais ça ne fait pas trop de sang quand même. Il meurt proprement. Et c'est des balles avec le. Comme ça, du silencieux. Donc, c'est pas horrible, c'est juste des morts d'opérette, enfin, ou de théâtre. Mais ce pauvre Maurice est complètement... Et nous, avec lui, on ne sait plus quoi... Alors nous, on en sait beaucoup plus que Maurice, puisqu'on a les scènes dont il n'est pas au courant. Et c'est le plaisir aussi pour le spectateur. C'est qu'on rit de Maurice qui ne comprend rien à ce qui se passe, alors que nous, on a toutes les clés. Donc c'est un peu facile, entre guillemets, mais c'est fait pour se détendre et c'est très bon.
Et puis, je sais pas, je suis persuadé qu'il y a une garde-robe au Panthéon du cinéma dans laquelle il y a la robe de Mireille d'Arc. Mais comme on en parlait hors antenne, cette fameuse robe de Mireille d'Arc avec ce fameux décolleté, ce dos nu, est au Louvre.
Oui. C'est une œuvre d'un grand couturier français.
Guy Laroche.
De Guy Laroche.
On ne peut pas aller au Louvre, mais on peut regarder le film. Ce n'est pas la première raison pour laquelle il faut voir ce film, mais c'est un bon film en tout cas. On rigole bien. Le grand blond avec une chaussure noire de Yves Robert. On fait une première pause musicale. La musique, c'est...
La musique, c'est Vladimir Cosma, qui était spécialiste de ce genre de film. Ce compositeur que les réalisateurs appelaient tout de suite pour donner la couleur du film. Et chaque fois, ça marchait remarquablement bien, hein. On a parlé la semaine dernière de Rabbi Jacob, c'était lui déjà.
Là, il faut reconnaître que ce film-là, sans les gueules et sans la musique,
c'est l'anime.
Et là, on a cette musique dans la tête, d'autant que c'est une espèce de pipeau, je ne sais pas, ça s'appelle le Naï, je crois. Oui. C'est Jorge Zamfir qui en joue, la musique donc de Cosma, qui est originaire de son pays. Il y a quelque chose d'Europe de l'Est, et ça marche diablement bien.
Vous l'entendez cette voix là, redites-moi un mot, Louis-Marie. Ça marche comment vous dites?
Diablement bien.
Voilà, bah oui, il a déjà brûlé un micro avec sa grosse voix. Un micro, c'est 350 €. Alors soutenez-nous, appelez la radio au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Non, sans rire, on a besoin de vous. Cette semaine, c'est la vôtre. Appelez-nous, soyez généreux. Voilà, l'objectif est haut. Les conditions sont compliquées pour tout le monde. On se donne du mal et on fait ça évidemment avec grand plaisir.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma. En ces vendredis, on essaye de vous donner des idées de week-end et d'évasion par l'imaginaire et par le truchement du 7e art. On est privé de certains arts en ce moment, mais celui-là, ça fait partie de ceux dont on n'est pas privé, même si leur situation est difficile. Et puis, je vous rappelle que nous sommes en pleine semaine de Radio Don. Un autre exemple. Une journée de programme, eh bien c'est 6 000 euros, chers auditeurs. 6 000 euros, ça paraît beaucoup, mais 60 personnes qui donnent 100 euros. Et on y est déjà. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Merci de votre générosité. Deuxième film qu'on a choisi, la catégorie, c'était « Le monde d'après ». Alors, ce n'est pas un film qui dessine forcément le monde d'après, mais en tout cas, il donne envie peut-être d'en construire un autre. C'est donc un film documentaire, comme la semaine dernière. C'est « Home » de Yann Arthus Bertrand. On va écouter Yann Arthus Bertrand, qui ne le connaît pas. Hein. C'est donc un film qui prend de la hauteur et qui nous fait découvrir la Terre et ce qu'elle vit actuellement. On écoute tout de suite la bande-annonce.
La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre.
Home de Yann Arthus Bertrand. Alors, il y a une histoire quand même, puisque Yann Arthus Bertrand donc, est connu pour ses clichés magnifiques, hein, donc de la Terre vue du ciel, hein, c'est ce qu'il a lancé. Et là, c'est donc une déclinaison cinématographique. Il y a une histoire, c'est qu'en fait, il essaye de raconter l'histoire de la Terre. Donc en 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu l'équilibre sur la Terre, qui existe elle depuis 4 milliards d'années. Et après, tout en nous décrivant en fait la splendeur de la Terre, en nous la montrant, eh bien, il nous montre ce revers de la médaille qui est cette exploitation complètement folle qui est celle de la Terre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de chiffres qui sont cités. Il y a aussi des thématiques. Hein. On écoutera tout à l'heure un autre extrait. Louis-Marie Solaire ou Paul Dima. Que dire de plus peut-être sur... C'est pas facile de faire un documentaire comme ça avec des images et sans personnage, Paul Dima.
Alors, c'est pas complètement sans personnage, mais ce qui est mis en valeur, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la beauté de la Terre, et avec des images superbes. Et toutes les vues sont prises d'hélicoptères ou d'avions, c'est-à-dire qu'on a de la hauteur. Alors, les personnages qu'on voit sont un petit peu minuscules et sont vus de haut, un peu comme écrasés.
On voit presque jamais des visages,
par exemple. Non, jamais. Et donc... rien que par les images, l'homme est presque un occupant, un peu comme une fourmi, sur une terre qui le dépasse. Et le propos du film, peut-être un petit peu binaire, cette immensité de la Terre et cette beauté de la nature est mise en péril par ce tout petit bout d'humain qui se promène dessus, mais un peu comme un intrus qui détruit tout. Et donc ça renvoie à une responsabilité individuelle, alors que c'est si beau, qu'est-ce qu'on a fait de cet univers qui existe bien, bien, bien avant nous, 4 milliards d'années contre 200 millions.
Alors je cite quelques-unes des critiques. Libération, tourbillon d'images, sochique et surtout très choc que l'on contemple en écoutant ces messages quasi subliminaux qui cherchent à s'incruster au plus profond de notre cerveau, ça c'est vrai. Le monde, les images sont splendides, le commentaire pédagogique, la musique a rien grandiloquente, le visuel reste enchanteur, vestige d'un Éden à sauver. Le Parisien Yann Arthus Bertrand a réussi son pari, faire réfléchir et débattre, ces images sont aussi édifiantes que belles. Louis-Marie, peut-être rappeler, donc c'est en sortie en 2009, ça a été diffusé, on va dire, avec force, il y a eu de nombreuses traductions. Un film, c'est un film qui tourne dans le monde entier.
Qui a tourné dans le monde entier, mais il y a une distribution aussi particulière quand même, qui est passée en salle, certes, mais dont l'exploitation a été plus plutôt différente de celle qu'on peut avoir par rapport à des documentaires comme celui dont on a parlé la semaine dernière, Demain.
Donc parce que... ça a été diffusé donc sur France 2.
Ça a été diffusé à la télévision, ça a été diffusé dans différents endroits. Après, on avait accès, on a toujours accès à ce film sur des plateformes de streaming gratuites. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir ce film sans payer. C'est un film qui a été monté avec des aides substantielles de différents groupes et de marques fameuses de luxe, de tous les genres, surtout de luxe, effectivement. Mm-hmm. D'ailleurs,
sponsoring Pinot Printemps Redoute.
Voilà, et on voit d'ailleurs les noms de ces sponsors au générique du film et au début du film, puisque ce sont ces marques qui composent le mot, qui tracent le mot home.
Avant que vous nous disiez peut-être vos réserves et qu'on écoute un autre extrait, pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est un beau documentaire, que c'est un documentaire qui a du mérite, Paul ?
Eh bien, pour ce qu'on commençait à exprimer tout à l'heure, c'est...
Il fait la preuve par l'exemple, quelque part, non ? C'est aussi, hein, c'est...
Quelque part, oui. Il nous invite à admirer, quand même, l'existant, la nature, l'eau, etc. Et il nous invite à nous interroger personnellement, c'est-à-dire que le commentaire invite le spectateur à prendre conscience de gestes à faire pour sauvegarder ou pour restaurer cette si belle nature qu'on endommage par nos façons de vivre, nos façons de consommer, etc. Donc y a un appel, une invitation à changer notre comportement par respect pour cette nature si belle et si grandiose.
On va écouter un extrait. C'est un extrait qui parle des énergies fossiles, toutes ces énergies fossiles qui, dans le ventre de la Terre, d'une certaine manière, sont stockées depuis des millions d'années et que l'on brûle. Et c'est un extrait aussi qui parle, comme la semaine dernière, hein, c'est l'extrait qu'on avait choisi pour le documentaire Demain, qui parle du monde agricole, ou en tout cas du système agricole occidental actuel.
Ces flammes, c'est encore du végétal. Une poche de soleil, de l'énergie pure. L'énergie du soleil captée pendant des millions d'années par des millions de végétaux il y a plus de 100 millions d'années. C'est le charbon, c'est le gaz et c'est surtout le pétrole. Tout s'accélère. Au cours des 60 dernières années, la population du globe a presque triplé et plus de 2 milliards d'hommes ont rejoint les villes. Tout s'accélère. Cette ville, Shenzhen, en Chine, avec ses centaines de gratte-ciel et ses millions d'habitants, était encore un petit village de pêcheurs voilà à peine 40 ans. Tout s'accélère. À Shanghai, 3000 tours et gratte-ciel ont été érigés en 20 ans. Des centaines sont encore et encore en construction. Aujourd'hui, sur 7 milliards d'humains, plus de la moitié vit dans les villes. Dans les campagnes, les machines ont remplacé les hommes. Un litre de pétrole fournit autant d'énergie que 100 paires de bras pendant 24 heures. Mais dans le monde, seulement 3% des paysans disposent d'un tracteur. Cependant, leur production domine la planète. Aux États-Unis, il ne reste plus que 3 millions de fermiers. leur seule production céréalière pourrait nourrir 2 milliards de personnes. Mais ici, comme dans tous les pays industrialisés, ces céréales sont d'abord transformées en nourriture pour le bétail et en agrocarburant. L'énergie de la poche de soleil éloigne le spectre des sécheresses qui hantaient l'agriculture. Aucune source d'eau n'échappe à une agriculture qui prélève 70% de l'eau consommée par toute l'humanité.
Voilà pour l'extrait. Alors, il y en a bien d'autres. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet extrait, c'est qu'en fait, ça décrit aussi les avantages qu'on a pu imaginer à cette agriculture ou ce modèle donc industriel agricole. Parce qu'on a plus de force, parce qu'on peut nourrir davantage, etc. C'est vrai que quand on en connaît peut-être les dégâts aujourd'hui, pas peut-être, hein, et quand on met ça au regard de la manière dont ça fonctionnait avant, il y a de quoi se poser des questions. Paul, est-ce qu'il y a des images comme ça, ou des chiffres, ou quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit, ah, tiens, ça, ouais, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau, ou au contraire, effet de contraste. Ça, j'en avais pas conscience.
Mais je vais prendre une image, celle de l'eau sur la Terre. Alors, on sait que l'eau est très menacée par l'activité industrielle, par la vie des humains et des animaux. Et dans cette façon de traiter la thématique ou le thème de l'eau, on a à la fois des grands fleuves, il y a des survols immenses, des océans, des grandes cascades, c'est magnifique, il y a une puissance dans les images extraordinaire, on se dit, mais c'est merveilleux tout ça. Et puis, il y a une séquence où on nous dit, vous savez, ce que vous, à Paris, combien d'eau vous consommez par jour? Et alors là, il y a des chiffres qui nous tombent sur la tête, jamais on n'aurait imaginé ça. Alors, non seulement, c'est pas simplement fermer le robinet quand on se lave les dents, mais c'est tout ce qu'on consomme, et pour s'habiller, et pour manger, et pour se laver aussi, bien sûr, mais surtout pour le vêtement. Et c'est un peu accablant, parce qu'on se dit, mais voilà, là, avec un tel niveau de consommation, c'est pas possible que ça continue comme ça.
Je vais citer un ou deux chiffres et puis après je vous laisserai faire part aussi des réserves qui ont été exprimées parfois à l'égard de ce documentaire. Je crois que vous vouliez en parler. Des chiffres, on en prend quand même plein la figure. Parfois, il y en a tellement qu'il faut presque avoir un stylo. Et c'est peut-être... par moments, j'ai trouvé que c'était un peu too much, comme on dit. Mais bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. La Bocquise a fondu de 40% en 40 ans. Elle a fondu de 40% en 40 ans. 40% de la forêt... moins 20% de la forêt amazonienne aussi en 40 ans. Il parle de la surpêche, c'est connu. Hein. 3/4 des ressources de pêche qui ont disparu. Ou 30% déjà des coraux à travers le monde. Bref, le coup de marteau fonctionne. Et en même temps, on voit des images comme ça, magnifiques. Alors, vraiment, on se demande un peu où on est. Les réserves, Louis-Marie, il y en a quand même eu quelques-unes à l'égard de ce documentaire.
Oui, d'abord, c'est le gigantisme du projet qui a un peu, comment dire, choqué, à savoir que ça, le film a coûté quand même 12 millions d'euros. Ouais, on a expliqué comment il avait été financé, 3 ans de tournage, toutes les vues en hélicoptère. Alors, puisque la plupart d'entre elles, on l'a dit, hein, sont aériennes, ce qui fait le côté sensationnel des images, le fait qu'on ne peut que penser qu'elles sont époustouflantes, et on les voit époustouflantes, ces images. À l'heure actuelle, et pourtant le film n'a que 11 ans, ce film pourrait plus se faire. En tout cas, ici, s'il se faisait, dans les mêmes conditions, il y aurait une volée de bois vert parce que...
Il faudrait qu'il prenne une montgolfière. Ça.
Voilà, exactement. Il ne pourrait plus utiliser l'hélicoptère comme ça. Il ne pourrait plus... Parce que là, le bilan carbone, il est...
Il n'est pas très bon.
Il est... Et alors, puis il y a aussi, on parlait du discours. Alors, le discours est simple. On l'a taxé aussi de simpliste. Les commentaires qui viennent compléter les images, c'est... là-dessus qu'on a beaucoup critiqué.
Simplisme, mais a priori rien de faux non plus, hein.
Ah mais non, mais c'est la contradiction en fait. Il faut changer notre comportement, parce que vous voyez tout ce que je montre là, la plupart, il y a des choses qui ont disparu et qui vont disparaître, ça c'est vrai, Mais après, il n'y a pas, y a pas de proposition, finalement, alternative. Comme on peut le voir dans d'autres documentaires du même genre, il y a un constat.
C'était certes. La semaine dernière. Je me suis dit qu'on aurait dû mettre les deux documentaires dans l'autre sens. Mais, bon,
mais et, oui,
c'est en marchant qu'on a. C'est, qu'on
mais de toute façon, les auditeurs ont les deux documentaires en tête parce qu'ils ont suivi nos conseils et qu'ils ont vu Demain et qu'ils se rendent compte qu'il y a dans l'un des messages et des choses simples, vous le soulignez en particulier tout. La permaculture et tout, et qu'il ne suffit pas de beaucoup, de peu de monde pour arriver à en nourrir beaucoup. Et là, effectivement, on dénonce tous les problèmes de carbone, c'est ce qu'il montre dans ce film, et les problèmes de pétrole. Et il montre justement toutes ces industries qui produisent de l'électricité, mais il ne parle pas, ou peu, de ce qui est nucléaire.
Alors, Paul, vous avez justement aussi un mot sur ces industries.
Un petit peu comme vient de le dire Louis-Marie, c'est-à-dire que...
C'est la petite fourmi qui se prend des coups de marteau, surtout.
Oui, alors, le film est un peu binaire. C'est la beauté de la nature et de la création d'un côté, et de l'autre côté, l'homme qui détruit. Mais
a priori,
on se prend un peu... les commentaires sont un petit peu des coups de marteau ou des coups de bambou sur la tête.
A priori, c'est pas les chimpanzés qui polluent non plus.
Oui, et... D'accord, mais dans le film Demain, on nous montre comment l'homme est déjà en train de construire quelque chose de plus respectueux. Ici, on nous renvoie à quelque chose d'un peu moralisant, au mauvais sens du mot, culpabilisant, c'est-à-dire, et voilà tout ce qu'on fait, tout ce qu'on détruit, mais il n'y a pas d'ouverture vers une recréation dont nous pourrions être partenaires.
Alors donc, à voir dans l'ordre, si vous n'avez pas vu Demain, ben vous commencez par regarder le film de Yann Arthus Bertrand, le documentaire, et puis après vous regardez Demain. Voilà ce que vous conseille, quels sont nos conseils de ce jour.
Et notez, excusez-moi de vous interrompre, les différences, parce qu'on parlait de la production aussi. Quand on entendait la voix de Yann Arthus Bertrand, c'est dans la version pour la télévision. Pour le cinéma, c'était Jacques Gamblin, et il y avait une version hispanique et une autre anglophone, où il avait demandé à deux actrices, une américaine, Glenn Close, et la belle Salma Hayek, qui proposait sa voix pour la version hispanique. C'est-à-dire que c'est... je reviens au côté gigantique du... Je ne sais pas ce qui correspond le mieux.
Du projet.
Du projet, et à toutes les copies et toutes les possibilités que le monde entier a pu voir.
Dans 50 pays en même temps.
Oui, voilà. Exactement.
Il n'empêche que ça reste un problème mondial et que même le pape François nous appelle à une conversion radicale sur le sujet. La pause musicale, Louis-Marie, elle nous introduit... Non,
c'est un extrait de la musique du film. C'est Armand Amar, si mes souvenirs sont bons, qui l'a composé. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce vendredi. En ce temps de confinement, on essaye de vous accompagner chaque jour au plus près. Et le plus près, eh ben, c'est peut-être de vous aider à penser, à avoir quelques bonnes idées pour votre week-end. Et puis, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes en pleine semaine de Radio Don, que cette radio vit de votre générosité. Voilà, une grande partie de notre budget, eh bien, c'est le vôtre. Donc on vous tend la main d'une certaine manière, on vous demande de participer. Comme on achète le journal, hein, c'est souvent ce qu'on dit à cette antenne, quand on achète le journal, ben, on sort une pièce. Là, à la radio, ça revient directement jusque chez vous gratuitement. Et pourtant, il y a du matériel et il y a des gens qui travaillent. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Après De quoi rire, le monde d'après et notre troisième catégorie, c'est donc ces chefs-d'œuvre spirituels. On ressort un peu des films dont on avait parlé, mais qui nous avaient particulièrement plu ou qui sont surtout particulièrement des grands films. Cette fois, c'est Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson. C'est inspiré donc bien sûr d'un roman de Bernanos publié en 1936. Grand prix du roman de l'Académie française. Et donc, on va écouter la bande-annonce de ce film.
Ce que vous avez promis de faire, c'est aujourd'hui même. Demain, il sera trop tard.
L'Église s'en moque que vous soyez aimé, mon garçon. Soyez d'abord respecté, obéi.
N'avez-vous aucune crainte de Dieu?
Je la tuerai, ou je me tuerai.
Je ne fermerai ma porte à personne aussi longtemps que je serai curé de cette paroisse.
Elle prétend que sa mère a résisté jusqu'au bout.
Le paroissien vous occupe beaucoup, monsieur le curé. Une paroisse pourtant si petite.
En quoi me suis-je trompé?
Tu t'agites trop. Tu as l'air d'un frelon dans une bouteille.
Je ne crois rien faire de mal en notant ici, au jour le jour, avec une franchise absolue, les très humbles, les insignifiants secrets d'une vie d'ailleurs sans mystère.
Voilà, journal des très humbles et insignifiants secrets d'une vie d'ailleurs sans mystère. Et c'est donc le journal d'un curé de campagne. C'est un jeune prêtre qui arrive dans une cure à Ambricourt, donc petit village du nord de la France. C'est un prêtre de prime abord tout ce qu'il y a de plus touchant. Bah, d'ailleurs, ça ne se dément pas au long du film. Mais alors, il arrive, le pauvre, dans une situation paroissiale bien compliqué. Allez Paul, je vous laisse décrire peut-être le nid de guêpe dans lequel il tombe, ou en tout cas dans le creux dans lequel il tombe.
Alors on ne voit pas trop la vie paroissiale, sinon les leçons de catéchisme auprès des enfants, d'où une petite fille d'ailleurs lui tend des pièges et les enfants se moquent de lui. Et on le voit au contact du château.
On peut imaginer que la vie paroissiale n'est pas d'une grande ferveur non plus, sinon on en aurait parlé dans le film.
C'est complètement c'est assez désertique. Sa cure est misérable, quasiment à l'abandon. Lui-même est gravement atteint par l'alcoolisme de sa mère, c'est-à-dire qu'il porte les séquelles avant d'être né d'une maladie alcoolique. Et il est confronté à ce qui se passe au château, où le comte, il s'en rend compte très rapidement, trompe sa femme et honteusement avec une jeune femme qui est là pour donner des cours à sa fille, qui est son père à cause de ça et qui est aussi sa mère, qui a perdu un enfant et s'est forgé un petit peu une carapace pour ne pas se laisser atteindre. et supporter tout ça dans la souffrance et sans rien dire. Et le prêtre, le jeune prêtre, va désarmer cette femme par sa simplicité, par sa grande foi, et on pourrait en reparler tout à l'heure.
Alors, c'est un film qui a connu un grand succès. Hein. C'était Grand Prix de Venise, donc en 1950, et puis d'autres Grand Prix du cinéma français en 1951. Les autres, vous avez peut-être éclairé, c'était les prix de l'époque, peut-être.
Hein. Oui.
Prix Louis Deluc, 1950.
Ah non, le prix Louis Deluc existe toujours.
Ah bon, vous voyez, hein. J'écoute pas assez l'émission. N'oubliez pas l'ouvreuse. C'est vraiment un film magnifique. C'est un film presque qui montre un travail de rédemption, j'ai envie de dire. Et c'est un film aussi qui est fait sur, d'une manière très particulière, puisqu'on entend une voix, lui, Marie.
Et oui, Bresson fait une utilisation de la voix off remarquable, parce qu'en fait, on est à la fois témoin et détaché, un peu comme le personnage central du film, ce curé de campagne, ce jeune curé de campagne. Et il pense, donc on l'entend penser, c'est cette voix off, en fait, qui commente tout ce qui se passe, plus que les dialogues qu'on peut rencontrer dans le film. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais la voix off installe ce climat, parce que qu'est-ce qui va rester de cet homme, ce petit cahier sur lequel il note, et justement ces notes qu'on entend, un petit cahier d'écolier, vous l'avez dit, c'est une vie misérable, et c'est d'autant mieux souligné que Bresson met tout au même niveau, tout est toujours embrumé, tout est toujours noir, entre le village, le presbytère, le château, on ne fait pas une grande différence en fait, il n'y a pas de grand lieu, le châtelain, bon, c'est finalement à l'image de cet
situation.
Homme, de la situation.
On étouffe un peu. Hein,
exactement. C'est ce qui rend encore plus poignant ce qui arrive à ce curé de campagne.
Alors, pourquoi est-ce que c'est un grand film, Paul? Je disais, c'est comme une histoire de rédemption qu'on voit en direct. L'apparent échec, en fait, c'est la faiblesse de cet homme. C'est par là que passe la lumière.
Alors, c'est un film mystique. Et qui est remarquablement traité et d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue littéraire. C'est-à-dire que c'est pas à partir d'un roman, c'est une adaptation au cinéma du texte même de Bernanos. Et c'est rendu de façon magnifique, de deux façons. C'est-à-dire, comme le disait Louis-Marie tout de suite, on entend la relecture faite par le curé de ce qu'il vit et de ce qui lui arrive et de ses interrogations. Et on le voit écrivant, mais il est en même temps filmé son visage est extrêmement présent et traduit à la fois sa misère, son espérance, son découragement,
ses angoisses,
son combat spirituel. Et il y a une scène magnifique avec la comtesse où c'est un prêtre désarmant, c'est-à-dire que il est méprisé, un peu c'est un petit curé de rien du tout, mais sa simplicité, sa pureté d'âme dérange tout le monde et lui crée lui-même un tourment important. Et son vieux maître, un prêtre, le curé d'Ambricourt, de Torcy, qui lui est un bon curé,
le bon curé de
une
campagne,
belle paroisse et tout ça, auprès duquel vient se confier ce jeune curé un peu hésitant et un peu tourmenté. Il le rudoie un peu, mais avec beaucoup de tendresse. Et c'est lui qui va lui révéler un moment qu'il est quelque part le visage du Christ souffrant au Mont des Oliviers. Et ça le rejoint en plein cœur, ce prêtre-là, de consentir à cette dimension mystique de sa vie, non pas prendre la place du Christ, il y a à prendre la place de personne, mais il traverse le chemin qu'a vécu son maître. Et ce faisant, eh bien, il accomplit sur terre sa mission de prêtre comme le Christ, à la façon du Christ, sans prendre la place du Christ.
Et ça, c'est très fort, parce qu'il faut le monter
montrer
au cinéma. Moi, ça me fait penser à parfois ce qu'on dit de la prière aussi. Hein. La prière, c'est Dieu qui nous rejoint dans la prière. Il y a un mystère dans cette passivité, en fait, qui est parfois le lieu où Dieu se révèle. Louis-Marie, votre commentaire, pourquoi est-ce que c'est un très beau film qui a eu reconnu comme tel, hein ?
C'est cette qualité cinématographique, cette façon d'arriver à mettre en scène un texte difficile, ardu, c'est complètement épuré. Le jeu même du comédien, c'était Claude Lédu qui interprétait le curé, qui interprète toujours et qui l'interprétera toujours chaque fois qu'on verra le film. Ce qui est fort, c'est que cet homme ne comprend pas. Hein. Il est bon, il ne comprend pas pourquoi on le rejette, pourquoi personne ne l'aime. Il ne comprend pas. Il est complètement désemparé. Mais il n'est pas devenu un martyr. Il est maltraité, mais ce n'est pas un martyr. Mais aussi, il va mourir dans la peur, mais aussi dans la grâce. Il y a toujours c'est une forme de dualité. Le dire que c'est le bien et le mal, ce n'est pas tout à fait ça, mais on est dans ce thème, dans cette ambiance, et c'est ce qui est remarquable dans la façon de jouer, de tourner, et cette façon qu'a eu Bresson de faire ce film.
Voilà, très beau film. Je vous rappelle notre tiercé gagnant, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Yves Robert, Home de Yann Arthus Bertrand et Le Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson. Un grand merci à vous d'être fidèle au poste, particulièrement en ce temps de confinement. Ça en fait des films à voir, mais on va dire qu'on ne se plaint pas. Ce sont des bons choix. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.